Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Moins d'1% de la superficie du Mali constitue les forêts classées et périmètres de protection. Ces forêts classées sont l'objet d'occupation et d'exploitation anarchique, entraînant leur dégradation, voire leur disparition. Quel apport sur le plan économique? Quels sont les enjeux de la gestion de nos forêts classées? À quoi faut-il s'attendre si on n'agit pas maintenant? Nous répondrons dans ce grand dialogue à ces questions et à d'autres avec nos invités qui sont sur ce plateau, colonel-major Mamadou Lamine Sissoko de la Direction Nationale des Eaux et Forêts. Bonsoir.
Bonsoir.
Il y a ici sur ce plateau également le Tidjani Silla de la Société des Gestions Forestières Abdoulaye Alidou Sissé. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Et Lasseni Traoré, notre spécialiste des questions environnementales qui sera sur ce plateau en tant qu'analyste. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je suis Aliou Sidibé à la présentation, à la mise en onde, Ilia Nuhundiré.
Le Grand Dialogue.
Les forêts au Mali connaissent aujourd'hui une dégradation spectaculaire occasionnée par l'action de l'homme et du climat. La reconstitution à travers la régénération naturelle et même le reboisement sont très souvent au compromis. Alors, comment se portent les forêts classées au Mali? Une question toute simple, Mamadou Lamine. Alors, qu'est-ce qu'une forêt classée?
Merci. Je remercie le Zidjo Tamani. Nous avons invité ce débat pour répondre à votre question. Une forêt classée, c'est une forêt limitée avec un acte juridique qui gère un massif. Voilà la définition d'une forêt classée.
Alors, pourquoi une forêt classée dans notre pays? Un exemple, par exemple, de réussite et un exemple d'échec, s'il y en a.
Bon, au Mali, je prends le cas de la forêt classée de la Faya. Elle a des objectifs au départ. Ça a été créé depuis le temps colonial. C'était pour approvisionner le chemin de fer Bamako-Dakar, n'est-ce pas, pour les trains. Donc, à la suite, nous constatons que c'est une forêt qui sert de poumon, n'est-ce pas, pour la capitale du pays, Bamako. Donc c'est pour vous dire que sur le plan aussi puits carbone, c'est une forêt, n'est-ce pas, qui absorbe le carbone dégagé à travers le pays. Donc c'est pour vous dire que c'est une forêt qui a vraiment une importance écologique et une importance économique. Voilà l'importance de la forêt, la Faya, au niveau sur la route de Ségou.
Ok. Lasseni Traoré, alors on a posé cette question, pourquoi une forêt classée au Mali? Est-ce que vous avez peut-être un exemple de réussite ou bien d'échec dans le cas du Mali?
Merci de nous avoir donné cette opportunité. Je remercie Sidjo Tamani, toujours. Je crois que c'est des plateaux qui vont servir de cadre aussi pour permettre à beaucoup de Maliens de comprendre un peu cet enjeu. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est vraiment crucial. Nos forêts sont menacées. Forêts classées, je crois qu'il y a eu des séries de législations, des textes dans le domaine d'exploitation et de gestion de forêts. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à partir des années 1991, il y a eu beaucoup de changements. Les textes de 93 qui ont amené l'idée de la décentralisation ici, de la révolution de mars 91, nous avons suivi des séries de textes où les premiers textes de la décentralisation de 93 jusqu'en 96 mettent l'accent sur les différents domaines qui sont répartis entre l'État, les collectivités et les particuliers. Donc, le domaine qui appartient à l'État, c'est les domaines qui sont classés
oui, pour les besoins. On va en arriver au domaine. Précisément, un exemple de réussite ou bien d'échec du pourquoi de la forêt classée au Mali.
Oui, un exemple de réussite, nous pouvons citer les massifs de Bougouni-Yanfoyla, aujourd'hui qui est en période d'exploitation permanente et qui est confié à des partenaires d'exploitation. Je crois que c'est des aspects qu'on va aussi toucher. Les cas d'échec, je crois que c'est ça la question aujourd'hui qui nous préoccupe. Parce que l'inquiétude, c'est que ces forêts-là sont menacées de disparition. Donc, il faut des mesures urgentes conjuguées avec les effets néfastes des changements climatiques aujourd'hui. Vraiment, c'est une préoccupation et qui interpelle tous les acteurs et à tous les niveaux. Comme c'est une question transversale, complexe, ça demande l'implication et la participation de tout un chacun.
Alors, nous avons sur ce plateau Tidiane Sila, qui est d'une société de gestion forestière qui s'appelle Abdoulaye Halidou Cissé, donc exploitant des bois. Alors, comment nos forêts sont-elles gérées au Mali, Monsieur Sila?
Bon, tout d'abord, je vous remercie. Je remercie le studio Tamani. Je suis très content de participer à cette émission. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre, la question dont vous posez. Parce que le problème, c'est quoi? En 2010, les 12 juillet 2010, il y a eu une loi qui a été légiférée par l'Assemblée nationale, la loi 010-028 du 12 juillet, promulguée par le président ATT à son temps. Cette loi, je dirais, c'est la bonne loi. Pourquoi c'est la bonne loi? C'est la loi qui protège nos forêts classées et nos forêts non classées. Maintenant, cette loi n'a jamais été applicable par défaut des autorités. Ça, je le dis haut et fort, par défaut des autorités. Parce que vous savez, pour qu'on soit un exploitant forestier, il faut avoir la carte d'exploitant qui est payée annuellement et par région 100 000 francs. Ça, c'est ceux qui font le bois d'œuvre. Ceux qui font le charbon et le bois de chauffe, ça c'est 15 000 francs annuellement et par région. Le gouvernement s'acquiert de ces montants, mais ces montants, les 85% de ces montants sont reversés dans la forêt classée. Et ces montants n'ont jamais fait l'objet de transparence. Donc quelque part, les exploitants forestiers se disent biaisés par cette loi qui ne fait que récupérer les montants que les exploitants versent au sein de la recette nationale, au sein du trésor. Mais normalement, le travail qui doit être fait n'est jamais fait. Parce qu'on a parlé de la décentralisation. Et jusqu'à présent, ça c'est le problème crucial. Les exploitants et les agents forestiers sont confrontés au problème de la décentralisation. Parce que les maires de communes disent que ça, c'est leur patrimoine, c'est dans leur terroir. Maintenant, nous, exploitants, nous ne savons plus quel pied danser, parce qu'on s'est dit que le gouvernement a donné l'autorité à la Direction nationale des eaux et forêts pour le contrôle. Parce qu'avant, comme monsieur le disait tantôt, c'était dans le temps colonial. L'approvisionnement était fait entre l'axe Dakar-Bamako. Maintenant, les colons se disent, comme la forêt même peut se produire ou bien avoir des ressources au sein même de son exploitation, donc ils ont arrêté leur financement.
Colonel Major, une réaction?
Bon, juste pour faire comprendre mon partenaire exploitant, le Mali, à travers son service des eaux et forêts, qui a été créé depuis au temps colonial, a toujours eu des lois qui gèrent les ressources naturelles. Et bon an, mal an, ces lois sont révisées en fonction des réalités du moment. Et si je prends le cas de la loi dont il parle, c'est la loi 10-028 qui a remplacé la loi 04. Quelle est la différence entre les deux lois? Fondamentalement, à travers la loi qui a abrogé sur 4, qui est la loi 10-028, le problème qui se pose, c'est l'exploitation dans une zone sans plan d'aménagement. De la création du service des eaux et forêts jusqu'à nos jours, toutes nos lois ont géré cet aspect de la chose. C'est bien vrai que c'est un bien commun. La forêt a toujours besoin d'être planifiée en termes d'exploitation. Voilà pourquoi en termes de gestion des ressources naturelles, il y a un article qui dit « Toute forêt doit faire l'objet d'un plan d'aménagement préalablement à toute exploitation et approuvé par arrêté du ministre si c'est une forêt classée. » ça voudrait dire qu'une forêt classée peut être, n'est-ce pas,
exploitée,
mais il faut qu'il y ait un plan d'aménagement. Le plan d'aménagement veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a une feuille de route, qui nous permet, n'est-ce pas, de savoir qu'est-ce qu'on peut exploiter annuellement, qu'est-ce qu'on peut garder annuellement pour ne pas décimer le capital. Voilà pourquoi la loi s'appesantit sur cet article pour dire que, obligatoirement, pour toute exploitation, que ce soit l'exploitation par rapport au bois d'œuvre, que ce soit l'exploitation par rapport au charbon, que ce soit l'exploitation par rapport au madrier ou autre exploitation, en tout cas en direction des ressources forestières, il faut un plan d'aménagement. Voilà pourquoi en 2011-2012, il y a eu des problèmes. Il y avait un moratoire entre la Direction nationale des eaux et forêts et la Fédération malienne des exploitants pour nous permettre, n'est-ce pas, de faire écouler des produits qui ont été exploités dans les zones sans plan d'aménagement. Après coup, il y a eu des séries de lettres pour rappeler les différents responsables des services des eaux et forêts pour appliquer les textes. Voilà pourquoi aujourd'hui, en termes de gestion des ressources naturelles du pays, le manque d'application des textes fait qu'il y a problème.
Ok, mais le problème c'est la dégradation actuelle, mais qui en est responsable?
C'est le manque d'application des lois à tous les niveaux. Les textes sont très clairs, si les textes sont appliqués, à un moment donné il n'y aura pas de problème. Je prends un exemple terre à terre, on prend un massif donné. Surtout que nous avons des massifs à productivité faible. On prend un massif, on dit qu'on peut exploiter 100 mètres cubes de bois d'œuvre par an. Mais si on dépasse les 100 mètres cubes de bois d'œuvre, qu'est-ce qui va se passer? Mais la forêt va se dégrader, bien sûr. Voilà pourquoi, à un moment donné, on s'est dit que ce plan d'aménagement, c'est le point essentiel de la loi qui fait que, actuellement, les forêts sont dégradées. Parce que par endroit, les plans d'aménagement ne sont pas établis. Par endroit, les plans d'aménagement ne sont pas respectés. Voilà pourquoi nous assistons aujourd'hui à la dégradation de nos massifs à travers le pays.
Ok, merci. Monsieur Traoré, est-ce que vous, à votre niveau, au cours de vos recherches, vous avez pu identifier quand même des responsabilités par rapport à la dégradation de nos forêts classées?
Effectivement, je joins ma voix à celle de mes prédécesseurs pour dire que les questions de dégradation des forêts sont à la fois anthropiques, mais aussi naturelles. Donc je crois que l'aspect anthropique, c'est ce qui est beaucoup gênant, c'est ce qui est lié à l'homme. Donc l'homme dégrade durablement et de manière des fois irrémédiable la forêt. Donc la pression anthropique sur ces forêts aujourd'hui est vraiment inquiétante. Sinon de l'autre côté, il y a l'aspect naturel où on assiste au phénomène naturel de dégradation de l'environnement, notamment la désertification, qui est aussi en partie lié au fait que cette même population-là coupe de manière abusive les arbres, donc qui peut occasionner aussi l'avancée du désert. Donc on peut dire que on assiste à un autre problème qui va au-delà. Oui, il faut au moins un texte, même si le texte est mauvais. Mieux vaut un mauvais texte que de n'avoir pas en disposer. Le problème qui se pose, pourquoi les textes ne sont pas appliqués? Moi, je crois que la question nous interpelle. À travers sa réaction, aujourd'hui, je ne peux pas voir les citoyens qui élaborent ou qui sont associés, impliqués à l'élaboration d'un texte et qu'au moment de son application, les populations ne s'y reconnaissent pas. Ce qui veut dire qu'un travail n'a pas été fait quelque part. Cela sous-entend aussi que quelqu'un n'a pas fait son travail. C'est pourquoi vous allez voir dans les différentes conventions qui sont issues de Rio, notamment la convention sur la diversité biologique, la convention sur la lutte contre la désertification et la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, mettent l'accent sur l'implication des populations au processus de prise de décision. Donc si les populations suivent, sont impliquées du début du processus, pendant le processus et après le processus, il va de soi que ces populations se reconnaissent dans ces textes et l'application ne posera pas de problème. Très souvent, nous avons un problème de mimétisme. On fait la photocopie, sinon de copier-coller, des fois, il faut le dire, des textes qui, en réalité, ne se conjuguent pas ou ne convergent pas avec les réalités du terrain.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de suivre le grand dialogue du studio Tamani. Les forêts classées sont-elles en danger au Mali? Le grand dialogue en parle avec le colonel-major Mamadou Lamine Sissoko de la Direction nationale des eaux et forêts. Tidiane Sila est de la Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé et Lasseni Traoré, spécialiste des questions environnementales. 9 Maliens sur 10 vivent sur un tiers du territoire national, dans les parties sud et centrale du pays, considérés comme abritant l'essentiel des forêts. La faune terrestre et les ressources halieutiques ont été influencées de façon négative. Les besoins croissants des consommateurs, de consommation des populations et les aléas climatiques ont contribué davantage à accentuer cet état de fait. Alors, nos forêts sont-elles absolument bénéfiques? Alors, qui profite de l'exploitation des forêts classées? Colonel Major.
Bon, en termes de bénéfices, les forêts sont d'abord bénéfiques pour le pays, en termes de bénéfices écologiques. Comme je le disais tantôt, ces massifs sont des poumons du pays. C'est à travers ces forêts que le pays respire. Donc, un pays sans forêt, vous savez, les pays désertiques, en termes de climat, en termes de température, vous voyez combien ça fait. Donc, c'est pour vous dire que, en termes écologiques, ça, c'est en importance.
Ok. Monsieur Tidiane Sila, alors vous êtes exploitant forestier.
Tout à fait.
Quels sont les bénéfices dont vous en tirez?
Bon, premièrement, je dirais que les bénéfices, c'est le pays qui en tire le premier sur le plan économique. Je prends un exemple sur le vin. Le vin, c'est un arbre arrivé à un certain moment. Un exemple bien donné, hein, sous le contrôle du colonel major. Il y a un microbe qu'on appelle le pourridier. Quand ce pourridier rentre dans le vin, ça détruit sa valeur économique. Et les éleveurs, ils vont couper les branches pour donner ça aux animaux tout. On s'est dit, le vin arrivé à un certain âge, scientifiquement, on doit le couper. Mais en restant 10 cm du sol, donc la régénération est automatique. Et la valeur économique, l'État récupère ça. Maintenant, j'en reviens sur votre question. Quand vous dites quels sont les avantages et les inconvénients, les forêts classées profitent à qui? C'est des forêts naturelles. Naturellement, ça profite à tous les Maliens qui ont le bon sens. Mais ça accuse qui que ce soit, j'accuse la République, le gouvernement, l'administration, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, qui ne font pas leur travail. Parce que les exploitants payent pour couper, pour faire l'exploitation. L'argent là, ça va où? Monsieur le colonel Major, il disait tout de suite que il faut un plan d'aménagement. Selon la loi 010-028 du 12 juillet 2010, que nous avons été affrontés sans être d'accord. À l'époque, c'était le ministre Tchemon qui était dans les affaires. Bon, mon ami était le directeur national. On s'est dit non, il faut qu'on discute. Nous sommes les premiers acteurs. On ne peut pas avoir une épaule d'Amoclès sur nos têtes. Il faut que nous comprenions la loi. Mais le fonds d'aménagement là, nous étant exploitants, on est conscient qu'il faut un plan d'aménagement pour faire l'exploitation. Mais la loi est tellement caduque et l'administration forestière, je m'excuse du terme, n'est pas à la hauteur de sa responsabilité. Parce que qui fait respecter la loi? C'est ça le problème. Nous avons voulu respecter la loi. Nous avons accepté la loi. Mais l'application, c'est au niveau
de l'administration.
Je vous donne un exemple tout de suite. L'ancien directeur, M. Camara, qui était venu après qui? Après, je ne sais pas quel directeur là. Il a fait une lettre en interdisant la coupe du bois.
comme je vous le disais tantôt dans le couloir, tout ce qui est interdit à l'homme, c'est ce que l'homme aime. Un exemple, en 2005, quand Nangouma était dans les affaires, il était le ministre de l'Environnement, les bois qui ont été coupés anarchiquement à Madrake, Malikono. Maintenant, un directeur national, tu donnes une lettre circulaire, sans plan d'aménagement, pas d'exploitation. D'accord. Mais qui doit faire les plans d'aménagement? Point d'interrogation. Qui doit faire les plans d'aménagement? On s'est dit, excusez-moi, hein, on s'est dit, d'accord, nous, nous exigeons de l'argent. C'est le gouvernement qui doit faire le plan d'aménagement, par le biais du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le ministère ne parvient pas à s'acquitter de cette tâche. Nous nous disons, nous étant les principaux acteurs, nous ne vivons que de ça. Nous sommes prêts à faire des plans d'aménagement. Mais si on n'a pas d'accompagnement, à qui la faute?
D'accord. Et nous revenons vers l'Assini Traoré, le spécialiste en question environnementale. À la date d'aujourd'hui, vu l'insécurité au sein de certaines forêts classées au Mali, parce qu'on a remarqué que certaines forêts classées deviennent le nid des bandits armés. Alors, que faut-il privilégier?
Il faut d'abord rappeler que les questions de bandits au sein des forêts précèdent une autre question, c'est les déplacés climatiques. Donc, je ne vais pas m'apesantir trop sur ça, parce que c'est des discussions à un niveau international où la notion de réfugié climatique n'est pas encore reconnue et partagée. Mais ces bandits qui se réfugient dans des forêts constituent un danger pour tout le monde. S'il faut décrire quelque chose, vraiment, c'est cette chose qu'il faut sévèrement décrire. Mais si vous parlez en termes de responsabilité, parce que la responsabilité quand même de protéger, de gérer ces forêts revient à l'État et aux exploitants aussi. Parce que c'est de manière convergente qu'on arrivera à une solution partagée. Ces bandits, normalement, il est de l'apanage de l'État. L'un des principes de base qui est la protection et la préservation de ces forêts. Donc, qui va aussi avec les règles régaliennes de l'État, la sécurité. Et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Donc, la forêt prise spécifiquement. Il y a un département qui s'occupe de cette question-là, qu'il a tantôt évoqué le ministère de l'Environnement. Mais il y a aussi des partenaires qui nous accompagnent dans ce sens. Parce que vous ne pouvez pas parler de gestion de forêts sans pouvoir les sécuriser. Et vous avez donné une idée par rapport aux superficies. Nous avons à peu près 8% du territoire national qui est occupé par ces forêts-là. Et il y a des chiffres encore qui inquiète par rapport au degré, l'élan avec lequel ces forêts-là qui sont en train de se dégrader. Donc, l'État a le devoir de pouvoir suivre partout où les bandits peuvent se réfugier afin de pouvoir sécuriser. Cela sous-entend qu'un suivi de près à l'intérieur de ces forêts-là n'est pas au rendez-vous. Parce que il va de soi que la notion de supervision de ces forêts, oui, je suis parfaitement d'accord que ça va évoquer une question de moyens. Les moyens ne sont pas au rendez-vous aussi. Il faut le dire, hein, il ne faut pas se le cacher. S'il faut superviser toutes nos forêts, il faut penser à mettre les moyens à la disposition de ce département permettant quand même de faire ce suivi-là et de près. Parce que s'il faut placer les agents des autres forêts dans des distances respectives où on ne peut pas constater des cas de réfugiés ou même des bandits qui vont se réfugier dans ces forêts, ensuite en pleine journée ils sortent, ils font des trucs. Nous avons une question de sécurité conjuguée aujourd'hui avec la situation qui prévaut au nord du Mali. Donc ça ne fait qu'augmenter ces situations-là et qui méritent encore à un niveau. Quand vous avez évoqué à un point où on va parler de solutions, je crois qu'on peut bien développer ces aspects-là.
Très bien. Merci. Colonel Major, alors nous avons remarqué qu'un contrat a été signé entre la Direction nationale des eaux et forêts et la société TAM Voyage sous la forme juridique d'une amodiation. C'est un cas quand même rare, sinon je dirais unique au Mali. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des avantages ou des inconvénients de l'amodiation?
Ok, merci. En termes d'amodiation, c'est un contrat de gestion partagée entre un privé et l'État, en termes de partenariat public-privé. Vous savez, à un moment donné, le Mali n'a pas le choix. Le gouvernement n'a pas le choix. Il faut faire participer tout le monde à la gestion du pays. Et c'est prévu par les textes. La gestion en amodiation et la gestion en concession, n'est-ce pas, d'une forêt à un privé. Ça, c'est des avantages. Ces avantages, c'est quoi? Le privé a ses moyens propres. Mais c'est souvent un contrat et un cas de charge que ce travail est fait. Donc, ce cas de charge est fait avec le service technique. Donc, c'est pour vous dire que l'État gagne dans le partenariat. Le privé, il gagne dans le partenariat. Mais ce qu'il faut comprendre, la modiation, la concession, nous l'avons fait avec un partenaire au niveau de Bougouni. On l'a fait avec un partenaire Verkita. Et on l'a fait avec un partenaire au niveau de la FAYA. J'ai dit jusqu'à date, pour le moment, il n'y a pas eu d'évaluation des différents contrats et des cahiers de charges pour savoir est-ce que ces contrats sont en train de bien marcher. Sinon, c'est prévu par les textes. Et je pense que l'État a intérêt à aller au partenariat public-privé pour la bonne gestion, j'espère, du patrimoine du pays. Je vous donne l'information que la couverture végétale du pays, forestière du pays aujourd'hui, c'est environ 125 000 km², soit 10% de la superficie du pays. Ça fait 106 forêts classées. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le secteur des eaux de forêt est en train d'évoluer à travers les textes. Les lettres dont mon collaborateur comment on l'appelle,
mais justement on veut le faire réagir par rapport à la modiation, parce que tantôt il était en train d'indexer l'État parce que tout simplement l'État n'était pas en mesure d'élaborer les plans quand même d'aménagement pour le remplacement des forêts exploitées. Alors Monsieur Silla,
oui.
Pourquoi vous, en tant qu'exploitant, vous n'allez pas vers cette question d'amodiation en général?
Merci de votre question. Parce que vous dites, quand on dit exploitant forestier, il y a ceux qui font le bois de chauffe, le charbon, le bois d'œuvre. Je m'arrête là. Ouais. Donc, il y a une loi qui précise cette exploitation. L'amodiation, nous, ce n'est pas trop notre fort. Comme il a parlé de M. Koulibaly, de la FAYA, ben c'est des milliardaires, ils ne sont pas comme nous. C'est comme je dirais que nous sommes dans le bois, gagnés dans le bois, et puis on est comme ça. Donc nous, on n'a pas la capacité financière comme eux. Mais ce que nous reprochons à l'État et à l'administration forestière, les montants que nous versons au niveau du trésor là pour faire les plans d'aménagement, nous avons été d'accord avec le plan d'aménagement.
Oui, mais ça, c'est déjà entendu. Mais la question d'amodiation, est-ce que ce n'est pas autorisé, par exemple, pour un regroupement?
Non, individuellement.
Le colonel major veut réagir.
C'est pour qu'on puisse un peu cadrer le débat par rapport à l'amodiation. L'amodiation, c'est une activité d'écotourisme, n'est-ce pas, par rapport
à
la zone FAYA. Tout sauf exploitation forestière. C'est différent de ce qu'ils font. Donc il faut un peu cadrer les débats. Donc en termes d'amodiation avec la société TAM qu'on est en train de vivre au niveau de la FAYA, c'est la création des ranches, amener des gibiers, faire du tourisme.
L'écotourisme.
Au niveau de la zone de la forêt classée de la FAYA, et nous aider à protéger. C'est pour vous dire que, je dis, il y a un contrat, il y a un cas de charge. Et dans le contrat, tout est prévu là-dedans. Il y a même un plan d'aménagement qui est prévu, que Tam Voyage doit financer. C'est prévu dans le plan. Mais en termes d'exploitation forestière, le texte aussi est là qui prévoit.
Ok. D'accord. Donc, nous allons... On va revenir à votre niveau. Mais le temps de voir la réaction de notre spécialiste en question environnementale par rapport à l'impact de la dégradation ou de l'exploitation des forêts sur le plan culturel.
Effectivement, j'ai échangé avec des communautés à la base par rapport à ces questions-là. C'est une préoccupation. Vous savez, il est arrivé que certains vieux nous disent que de manière culturelle, il y a ce qu'on appelle la disparition pratiquement de certaines pratiques culturelles, dû tout simplement au fait que, vous avez les lieux de culte, ils avaient besoin de certaines espèces pour les faire revivre. Mais pratiquement, ces espèces-là ont disparu. Vous voyez, c'est inquiétant. Et sur un autre plan, vous allez vous rendre compte que plus vous allez dans des villages aujourd'hui, les femmes qui se déplaçaient et à un pas du village, ils pouvaient tout de suite ramasser les bois et revenir à la maison. Aujourd'hui, il faut parcourir des kilomètres pour pouvoir s'approprier de ces denrées rares-là. Donc, une préoccupation majeure. Et je voulais juste dire deux mots par rapport à la mondialisation. En fait, l'inquiétude, c'est comme vous nous rappelez la question des sociétés nationales et la privatisation de ces sociétés-là. C'est parce que ça sous-entend que l'État, à un moment donné, s'est dit « Je ne peux pas seul, il faudrait confier à d'autres personnes. » Qu'est-ce qui a amené l'État par rapport à la gestion des forêts, qui est considérée comme moi comme d'utilité publique? Est-ce qu'en confiant cette exploitation à des privés, on va se retrouver avec la notion d'utilité publique et la préservation de ces forêts-là?
Okay. Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Retour sur ce plateau avec nos invités, le colonel-major Mamadou Lamine Sissoko de la Direction nationale des eaux et forêts, Tidiane Sylla de la Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé et Lasseni Traoré, spécialiste des questions environnementales. Les facteurs de la dégradation des forêts, la coupe de bois pour les besoins énergétiques d'une population en constante croissance, continuent d'accentuer les effets négatifs. Alors, nous allons écouter à ce propos un exploitant.
Bubo kita mara la ani yavoela mara ani kolanya ba mara atika yoro la ngela ba de bi ni mako ba la sisan ibita dugumu ko de fe abe soro ka be pri la moli nye kele bi nani bi sabani duru toro du yere bi oro
wa bi oro be
wa bi oro o soro la mu fe je furu ma u jo joro la parce que je furu re joro ta la parce que alfa tle ko be ki jandi ka yoro la be ki ka yoro na fa bo o de nana nai donc sisan ibi dugumu ta sara fo mo ta fana aywa ibo sara franchero hageto warla parce que papier ti ni papier bala akanoko doni donc ina to la famosu ko su bebi domina la ko parce que akora yir kanante ke donc anu mo ko saganya ne yirte to bi bi kala la bi dala ta ko na villa be porto abe de bo yirla na ko ko kanate ke fen to bulo ko lo non ay donc ka pape jo donc ya do abi gala onu mo lo wala o ma ke takisi fe on fe amo ke amo sarakan amma se ya donc afuna na fere o mo ma famo mu jo jo la famo de no do abe ju de o le ni ki bi gula o gula o fa la be famo no e no te du brutu ko mo bi ni so on sara o ta sara famo ya donc ni famo jo ro jo ro be de ba famo ta sara donc fondo mu bo nyo kana ni ki bi gala o gala na jamane ngora be nye mu di
ko famo famo ka cha o je robe police ou bien gendarme ou bien douane ou bien djumondo
be fenglene law be djube yoro gelena parce que ni sarati potoko baara ma chawa folo am wiritike ibi taitis imagine ye wula kono doron abana parce que jofro na premu 1600 premu tara o kerawa bi woro o kerawa bi chegnyo wo famo rete ni jofro te mi ma controle normalement menaw jodo donc be bi tamina aw ba tamina dou mo bu tamina o munu wono yo no gendarme ni police ou ani douane kade ne pa fiat ba tala mumaira kwa mo bo jama na wore o duga yo ta wore tong ode agala wore tong o fete se kan no ya ya munu ngone ba bara wula ko no ko ne sente na ko la ni ngon fomu ya ngone ne ma ni ngon fomu ya yere ko ni ke tu ko yo foni yele ma do na ni ma bo wore ka problem la sino je furu wore fle ni ma je furu ni ma bo fo je furu wore kama na ngone do ala pete toro toro u toko chana toro bu kan aywa donc ukanye mode nodo note mali fampe ajiri ko ingilente ko mali fampe de sare afoti se munu ye fwan mo lu ka sare de tamatro mo ko fantong ala tamone me balo fantong ne kan sa bana.
Alors, colonel major, vous venez d'écouter l'intervention de cet auditeur, bien sûr, en Bamanankan. Et toujours, vous êtes indexé au niveau du service des eaux et forêts. En même temps, quand même, il retient quand même que le service des eaux et forêts n'est pas en mesure d'assumer la responsabilité qu'on leur confie. Alors, pourquoi faut-il agir maintenant? Est-ce que nos forêts sont en danger, selon vous?
Bien, nos forêts, ils ne sont pas en danger. Si les textes sont appliqués, si chacun joue son rôle.
Mais justement, on dit que les textes, on n'arrive pas à appliquer les textes.
Je dis, les textes doivent être appliqués à tous les niveaux. Que ce soit les textes par rapport à la gestion des ressources forestières, les textes à tous les niveaux. Pas seulement liés à la forêt, hein. Je dis, tous les textes doivent être appliqués dans ce pays. Ce qu'il vient d'expliquer, le problème tourne à un moment donné autour du vin, qu'on appelle en Bambara Guénou, le bois d'œuvre, qui est beaucoup convoité par l'Asie. Le phénomène a commencé en 2009-2010. C'est des étrangers qui sont venus au Mali pour venir à travers des nationaux exploiter, demander à exploiter du vin pour amener, n'est-ce pas, en Asie. Comme je le disais dans mon intervention, au Mali, il n'y a jamais eu de loi qui n'a pas dit qu'on ne doit pas exploiter sans plan d'aménagement. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le bois exploité était consommé localement. Donc, ce n'était pas tellement palpable en termes de quantité exploitée. Vous savez, quand on parle d'exploitation, c'est des tonnes et des tonnes qui vont sortir. À un moment donné, on a essayé jusqu'à 400 et quelques conteneurs de vin qu'on voulait amener en Chine. C'est pour vous dire que le Mali, à un moment donné, à travers encore ma division, parce que je suis point focal CITES, nous avons combattu, aller jusqu'au niveau de la COP pour ramener le vin en annexe 2 de la CITES. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, justement.
Ça veut dire que ce bois-là, il ne doit pas sortir sans un document international qu'on appelle le permis CITES. Convention internationale pour le transport, n'est-ce pas, des produits forestiers. Donc en 2016, plus précisément en septembre-octobre, la convention a accepté, n'est-ce pas, l'adoption de la résolution de mettre le vin en annexe 2. C'est pour vous dire que ce produit, aujourd'hui, est suivi pour une question de traçabilité et de durabilité de ce produit. On est obligé de passer, je dis, par des règlements pour exploiter et pour faire sortir. Voilà tout le problème autour, n'est-ce pas, de ce produit.
Okay.
C'est pour juste vous dire que, au niveau du service des eaux et forêts, ça n'a jamais été demandé et ce n'est même pas possible de dire interdiction formelle de couper du bois. Ça n'a jamais été dit.
Okay.
Mais seulement, on dit, il faut respecter les textes. Les textes, c'est quoi? On ne doit pas couper sans plan d'aménagement. Voilà tout le problème.
Très bien. Monsieur Silla, vous allez réagir, mais le temps de vous demander tout simplement, quels sont les changements que vous avez remarqués par rapport aux composantes de la forêt, notamment la perte de biodiversité? Parce que j'imagine que ça fait longtemps que vous exploitez les forêts.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vous là, je vous disais tantôt, la loi 010-028 du 12 juillet 2010. Nous avons accepté cette loi sans la comprendre ni la connaître. On a eu un moratoire de 3 mois pour expliquer aux gens. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour réagir automatiquement à ce que le commun majeur vient de le dire, cette exportation de vin dont le colon majeur fait allusion, j'ai été le premier en tant que président de la Fédération nationale des exploitants forestiers d'alerter la direction nationale des eaux et forêts. On est en train d'exporter nos vins vers l'Asie. Est-ce que vous êtes au courant? À l'époque, monsieur Alassane Bongwana Maïga était le directeur national, son agent était Baïkoro Fofona. Ils disent non. J'ai dit non. Nous sommes des exploitants. Mais nous voulons l'exportation légale. Parce qu'il est dit, pour exporter le bois qui vient en territoire malien, il faut un permis d'origine, un permis de coupe, un coupon de transport, un permis de dépôt, et puis un permis de réexportation qui est signé par le directeur national, son adjoint, ou bien lui en tant que chef de division contrôle et réglementation. Les 3 signatures sont au niveau de Genève. Mais la direction nationale des offres n'était pas au courant. Le bois sortait illégalement avec la complicité des douaniers, des policiers qui étaient au niveau de la Sotelma. À l'époque, j'étais victime, j'ai dit je m'en fous. Moi, je défends mon pays.
Vous dites Sotelma?
L'assotellement. Okay. L'exploitation s'est fait au niveau de l'assotellement.
Sotelco,
excusez-moi.
Oui, justement, nous avons fait un tour dans Sotelco. La cour de la Sotelco, oui. Oui,
ouais, mais la direction nationale des eaux et forêts n'était pas au courant de ça. Donc, vous voyez, donc actuellement, comme le colonel major vient de le dire, c'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est l'administration forestière qui n'a pas été à la hauteur de sa tâche.
Oui, ça a été suffisamment annoncé sur
cette place. Annoncé, donc il faut le dire, le redire, le répéter pour qu'ils prennent conscience.
Ok, ok, ça va venir. Alors, monsieur le spécialiste en question environnementale, Lassini Traoré, alors, est-ce que vous, au cours de vos recherches là, vous êtes parvenu à détecter un changement des composantes, c'est-à-dire les pertes de biodiversité au Mali?
Effectivement,
dans nos forêts.
Merci de m'avoir interrogé par rapport à cet aspect. Je l'avais dit tantôt que le constat sur le terrain est inquiétant parce que nous assistons aujourd'hui à un phénomène où vous allez avoir une génération qui ne va même pas connaître certaines espèces. Et ça a déjà commencé il y a longtemps. Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. C'est à la télé que vous allez voir ces espèces-là. Et pourtant, dans le temps, vous pouvez les rencontrer partout au Mali. Mais malheureusement, nous assistons à cela et il n'y a pas de mesure pour permettre d'assister à ce qu'on appelle à ce retour de ces espèces en mettant en place un cadre idéal.
Oui, justement, voilà, mais quelle est votre proposition? Que faut-il faire pour renverser la tendance?
En termes de solution, je l'ai dit tantôt, c'est tous les acteurs qui doivent changer de comportement. Changer de comportement, dans un premier temps, en tenant compte du fait que les forêts ne sont pas pour les générations d'aujourd'hui. Les forêts nous ont été prêtées par les générations futures. Donc nous devons nous battre pour préserver ces forêts afin que les générations futures puissent mieux les exploiter. Et en dehors de l'aspect changement de comportement, il y a ce qu'on appelle faire en sorte que les acteurs à la base, les communautés à la base puissent être impliquées à tout le processus de prise de décision concernant la gestion de ces forêts. Un autre aspect, c'est de composer avec les acteurs sur le plan international. Aujourd'hui, nous crions, c'est vrai, nous sommes des Maliens, mais il faut aussi réputer la responsabilité à la communauté internationale, notamment les pays les plus industrialisés. Nous subissons les conséquences des déchets de dioxyde de carbone qui sont produits par les grands industriels et qui contribuent à détruire notre environnement. Donc il faut dire, ils ont leur rôle à jouer. C'est vrai, beaucoup d'efforts ont été fournis, comme le temps est limité. On avait le marché carbone.
Oui, le taux de carbone justement, Monsieur Silla, rapidement, que faut-il faire pour renverser la tendance? Oui.
Donc, pour renverser la tendance,
en 30 secondes.
Voilà, monsieur le disait tantôt, il faut que chacun soit responsable dans sa responsabilité. En un mot, il faut que l'État soit responsable. L'État est irresponsable. Ça, c'est... Voilà.
Ok. Colonel Major,
faire? Je ne serai pas trop loin. C'est toujours une prise de conscience à tous les niveaux. Okay. Surtout par rapport à l'application des textes.
Okay. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions ou contribuer au grand dialogue à travers notre répondeur. C'est au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Cette émission est une réalisation de Ibrahim Aran Diallo. Nous on dirait à assurer la mise en onde et Mamadou Ouattara la régie vidéo. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et à la prochaine.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Halo Demandé.
Chenne Berry.